Économie, environnement, société, vous en êtes où sur ces sujets? Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue à tous. Alors ce festival Livre en Marche, il a une particularité. Même si on est en Savoie, on n'est quand même pas très loin de la Suisse. Et la particularité, c'est de démarrer les conférences à l'heure pile. Il est 15h00. Donc cette conférence qui a pour thème... Alors, je ne vais pas vous citer les écrits de ce philosophe allemand, écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Mais comme on est dans une conférence très éclectique, j'ai été chercher une petite référence africaine. C'est un proverbe africain. Et qui dit que ça, c'est pour Jacques, parce que dans son livre, vous le verrez, on élargit le spectre. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Et je trouvais que c'était une belle façon de démarrer au-delà de la référence la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Alors, pendant toute leur croissance et leur durée de vie, et même par-delà leur mort, les arbres rendent, vous le savez, des effets multiples services, planète, aux êtres vivants qui la peuplent, protection, fertilisation des sols, régulation du cycle de l'eau et du climat, production de matières premières, accueil de la biodiversité. On leur doit, et on va en parler pendant un moment ensemble, énormément. Forêt indispensable à la vie sur Terre, le meilleur allié des sols, un havre de biodiversité. Il y a plein de références et je pourrais en prendre 1000. Pourvoyeuses d'eau et d'oxygène, et sans doute nos meilleures chances de lutter contre le changement climatique. L'actualité, vous le voyez tous les jours, nous le rappelle régulièrement, nos forêts sont menacées. Urbanisation, incendie, déforestation, exploitation de manière forte et réchauffement climatique font peser sur la forêt de graves dangers. Elles sont en danger. Que vont devenir les arbres? Pour comprendre la forêt, il faut la vivre. Et donc, on a 3 invités que je vous présenterai en leur donnant la parole à chacun. Donc, je ne vous les présente pas avec leur pedigree à chacun. Gilles Van Petegem, Jacques Tassin et Franck Liserin, qui sont tous les 3 avec des références très, très différentes. Vous allez le voir. Et on va commencer avec vous, Gilles. Pensez forêt. Alors, on m'a amené les livres. Je vous les montre. Ils sont à votre disposition, bien sûr, sur le stand. Gilles est à votre disposition jusqu'à 22h30 sur le stand. C'est ça, hein? Et agir contre l'anthropocène. Gilles, et il a écrit son livre avec Daniel Perron. Et donc, qui veut avoir une vue complète des enjeux forestiers nationaux doit lire ce livre, vraiment très intéressant. Gilles est ingénieur forestier, il a travaillé à l'ONF. Je ne vous donne pas tout son pedigree, on y est encore à 23 heures. Expert à l'Union internationale pour la conservation de la nature, membre du Conseil national de la montagne. Il était responsable du comité d'organisation du 20e congrès de l'Union européenne des forestiers. Enfin bref, et à partir des dernières connaissances, ce livre, il rassemble toutes les clés pour comprendre ce qui se joue vraiment en forêt, ce qui se joue pour notre société. Et il répond à des questions qui sont peut-être des questions simples. Comment fonctionnent les forêts? Et vous allez le voir, on va en parler. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Alors les 2 auteurs, Gilles et Daniel, nous invitent à chacun, par leur méthode, à penser à nos actions. Actions pour les générations futures. Mais une chose est sûre, l'humanité, ce n'est pas vous qui allez dire le contraire, l'humanité sans forêt n'a pas d'avenir. Pensez forêt, qui donne le titre à cet ouvrage, c'est penser à la forêt, c'est revoir le paradigme de sa gestion, mais c'est aussi, et ça c'est très important, penser par la forêt. Alors les deux auteurs, et Gilles est là pour en témoigner, ils n'hésitent pas à aborder de front tous les sujets conflictuels, coupe rase, chasse, projet industriel, valorisation des énergies et du bois. Une seule ambition pour ce livre, présenter les apports de la forêt dans un monde fragilisé par le changement climatique et l'effondrement biologique. Merci Gilles d'avoir accepté l'invitation de ce salon Livre en Marche. C'est un très beau salon, il y a de très belles thématiques qui sont abordées. Et là, on est dans la forêt. Température qui questionne dans notre monde. La mèche est partout allumée. Alors, c'est comme ça que je voulais commencer. Prenez le micro. La forêt est en danger, on peut la comparer avec la hausse du niveau de la mer. Est-ce que, véritablement, on est dans une situation d'urgence?
Alors, oui, bonjour à tous. Merci déjà de m'accueillir dans ce salon. La situation, j'aime pas le terme urgence parce que on est tous, il y a toujours une urgence qui en passe sur une autre. Moi, je préfère utiliser le terme important. La forêt, c'est un élément important, c'est structurant, notamment ici dans vos régions, puisque il faut savoir que l'histoire fait qu'on a eu à la fin du 19e siècle, enfin, deuxième moitié du 19e siècle, il y a eu des catastrophes naturelles dans vos régions. Et ça a engendré ce qu'on appelle les reboisements au titre de la restauration des terrains en montagne. Et donc, dans vos régions, la forêt elle a un enjeu extrêmement fort. Il faut la protéger parce qu'elle vous protège en premier, nous en général, mais vous surtout. Et donc, si les arbres sont retirés, je dirais, la couverture arbustive est retirée des montagnes, on aura de sérieux problèmes en termes de reprise de l'érosion, en termes de dégâts dans les vallées. Et c'est tout un espace économique qui se trouvera fragilisé, alors économique au sens large. Hein. Ce n'est pas que les entreprises, mais c'est tout ce qui tourne autour. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un certain nombre. Moi, j'ai des collègues, hein, c'est tout ça, c'est 40 ans, plus de 40 ans de métier. Et j'ai des collègues qui avaient fait une étude il y a une quinzaine d'années sur les problèmes du risque feu de forêt. Parce qu'on parle souvent quel est le plus gros risque pour les forêts. Et aujourd'hui, pour nos forêts métropolitaines, hein, je parle des forêts métropolitaines, le plus gros risque, c'est le feu. Il remonte, vous avez vu en 2022, quand j'ai commencé ma carrière il y a plus de 40 ans, on m'aurait dit qu'il y aurait des feux en Bretagne et dans le Jura, j'aurais dit, les gars, donnez-moi ce que vous avez fumé, ça m'intéresse. Mais on en est là. Et ce rapport qui a été fait par mes collègues avec les forestiers italiens, les forestiers slovènes, démontrait que si on ne prenait pas la mesure de la prévention des feux de forêt dans les Alpes, notamment plutôt dans les Alpes du Sud, bon là on est encore un peu au nord, mais dans les Alpes du Sud, les conséquences post-feu seraient encore plus dramatiques que les conséquences du feu lui-même, avec la reprise de l'érosion. Et jusqu'à présent, je ne suis pas sûr qu'on ait pris la mesure de ça. Et l'objectif aussi du livre, c'est de réveiller un peu les consciences et de remettre la forêt au milieu du village, comme on dit familièrement.
Alors, puisqu'on est au milieu du village, je déclinais votre pédigré avec toutes les fonctions que vous avez occupées, que vous occupez encore. Mais parlons du forestier, parce que finalement, ce forestier au cœur des forêts, c'est un observateur attentif, mais c'est un observateur bien placé pour comprendre et le réchauffement climatique et les tendances aujourd'hui qui sont fortes.
Alors oui, je dirais le forestier, c'est pas d'aujourd'hui qu'il constate les évolutions l'évolution du climat. On le constate depuis nombreuses années, on le constate un peu moins, je dirais, en montagne, parce que vous avez encore l'avantage d'avoir de l'eau. Mais il faut, je reviens toujours, c'est mon côté un peu scientifique, et ça va durer 5 secondes, hein, vous inquiétez pas. Mais si on n'a pas d'eau, il n'y a pas de photosynthèse, parce que c'est la molécule d'eau, deux molécules d'eau qui fournissent, je dirais, la molécule d'oxygène et non pas l'O2 que vous avez dans le CO2. Et donc ça, c'est un élément important et c'est le plus gros drame qui concerne un certain nombre de nos forêts, notamment les derniers éléments. Donc ça ne vous concerne pas ici, mais c'est des grandes forêts de chênes, puisque la France est le deuxième producteur de chênes au monde avec 25% de la production mondiale. On est en train de perdre, je le dis tel qu'on le voit sur les bilans. Il y a au moins deux forêts, voire trois, qu'on est en train de perdre au niveau national, et notamment une en Alsace, la forêt de la Harte. La forêt de Troncay, elle est en très, très mauvais état, et une autre en Gascogne. Donc, le chêne aussi, lui, est touché. Vous avez un autre problème, c'est un insecte qui est tout petit, qui fait 2 à 3 mm, mais qui fait des ravages chez vous, c'est le scolyte. Et là, c'est clair, net, moi, avec mes collègues du département santé des forêts, toutes les forêts d'épicéa à une altitude inférieure à 1200 mètres sont condamnés à court terme à disparaître. Et donc, il faut, travailler pour remplacer les épicéa, reconstituer ces forêts. Et là, il y a un gros travail dans le positif, parce que vous allez me dire, on va sortir avec nos mouchoirs et puis on va tous pleurer à la sortie. Non, non, deux points positifs. Les chercheurs se sont tous regroupés dans la même structure, chercheurs autour de la forêt. Donc ça, c'est un élément majeur, parce que généralement, chacun garde sa petite trouvaille dans son coin et puis, tu ne l'as pas. Donc voilà. Mais là, ils se sont rendus compte, ça fait des années, ils se sont regroupés. Donc c'est une base de données énorme. Et ils produisent des documents, des outils d'aide à la décision pour les forestiers. Et ça, c'est positif. Maintenant, il faut que ces outils soient utilisés et que derrière, il y ait une stratégie, une politique nationale qui soit vraiment ambitieuse, parce que le défi à relever, il n'est pas petit.
Alors, comme avec le livre de Jacques, on oscille entre histoire, science et puis le travail véritable des forestiers. Alors, on va planter le décor, 30% de la surface terrestre, c'est quand même des forêts qui l'accaparent. Et je voulais revenir sur la France. Le 31% de la surface de l'Hexagone, on est assez proche de ce qui se passe dans le monde, 2,8 milliards de mètres cubes, donc important. Et est-ce que, selon vous, il y a une volonté politique de reboiser? On a entendu le slogan sur planter 1 milliard d'arbres, mais est-ce qu'il y a une volonté politique de reboiser? Est-ce que cette forêt est suffisamment prise en compte?
Alors, sur ces sujets-là, c'est, comme je dirais, il y a deux choses. Il y a une volonté, mais elle n'est pas prise par le bon bout. C'est-à-dire que quand on vous annonce, alors je suis désolé, je ne vais peut-être pas être agréable, mais quand on vous annonce 1 milliard d'arbres qui vont être plantés, on prend par la fin le système. C'est-à-dire qu'on dévoile le système, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas fixé l'objectif de pourquoi on le fait. Et tout ce qui a été fait, même avec le Fonds forestier national en 1946, il y avait un objectif derrière, c'était de rendre la France indépendante au titre de la pâte à papier. Donc évidemment, on ne pouvait pas imaginer en 1946 qu'on serait tous avec nos téléphones portables, YouTube et autres, et tout un tas de choses. Mais il y avait un objectif qui était atteint et on a mis une structure en place, un système en place, de manière à atteindre cet objectif. Donc ça, c'était un point. Là, on annonce d'entrée, on va planter 1 milliard d'arbres. Oui, certes, c'est joli, en bas d'un tableau Excel. Moi, je dirais, pour être gentil, ça, c'est bien des calculs de banquier. Mais on ne sait pas pourquoi faire. Et donc, on a, le livre a été bien reçu par notamment l'association Canopée, que certains d'entre vous doivent connaître. Mais en fait, on fait pas, c'est pas pour planter, renouveler les arbres qui disparaissent, mais il y en a qui dévoient ce système pour aller couper des arbres, vendre des plantations, et comme c'est le milliard d'arbres, ben hop, on fait du chiffre. Or, l'objectif, c'est plutôt d'aller remplacer les arbres où il y a vraiment urgence à les remplacer. Deux chiffres importants. En 2019, en plein milieu de la crise de scolyte, où elle était à son maximum, c'est l'équivalent au niveau de l'Europe du massif des Landes qui fait 1 million d'hectares qui a disparu en Europe d'épicéas. Donc ça, c'est quand même un chiffre, c'est quand même, ça vous donne une échelle, parce qu'on dit 1 million d'hectares, c'est quoi? C'est ça. Cette année, en termes de feux de forêt, on n'a pas fini l'année, tout ce qui a brûlé en Europe, alors évidemment en France, il y en a moins, mais en Europe, il faut regarder l'Europe, parce qu'on est tous, les forestiers, on travaille beaucoup au niveau européen, on est à 1 million d'hectares, donc ça va venir encore que il y a encore le massif des Landes qui a disparu. Et donc, au-delà de ça, de se dire, ah oui, il a disparu. Oui, mais derrière, c'est du matériau bois. Derrière, c'est du CO2 qui n'est plus absorbé. Derrière, c'est la filtration de l'air. Il faut savoir qu'un hectare de forêt va vous filtrer 50 tonnes de poussière par an. Donc, il y a tous ces services-là qui disparaissent en même temps.
Alors, sur le plan politique, on a compris qu'il n'y a pas forcément consensus, encore que. Mais par contre, sur le plan scientifique, sur le plan des forestiers, là, il y a consensus. On connaît les défis, la sécheresse, surexploitation. Il y a des espèces à découvrir. D'ailleurs, j'ai découvert dans votre livre qu'il y avait peut-être, je ne sais plus combien, 1 000 ou 10 000 espèces à découvrir, peut-être 73 000 espèces recensées. Il y a un consensus scientifique, là, quand même?
Oui, il y a un consensus. C'est-à-dire qu'actuellement, déjà, gérer les structures forestières, notamment au sein de l'ONF et certains propriétaires forestiers privés, il y a la volonté de faire migrer, on va dire, artificiellement, les essences vers le nord. C'est-à-dire que dans les régions que je connais plus, je suis désolé, je connais moins bien les Alpes, mais je connais surtout la partie du Perche nord-ouest de la France, on est déjà en train de remonter dans les plantations des chênes qui viennent de Gascogne du sud, parce qu'on sait très bien que le chêne qui est en place actuellement, son avenir est plus que limité. Après, il y a toute la recherche scientifique. Lors de ce congrès qui était en 2021, on avait le grand monsieur de la génétique en France, Alexis Ducousseau, et qui nous a dit, il nous a parlé du syndrome de la reine rouge dans Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que l'arbre, pour rester en place, il faut qu'il court vite. Et donc l'idée, c'est qu'on a nos chênes sessiles en France, au cours de l'évolution, nous, l'homme n'existait pas encore sur Terre, mais au cours des glaciations, les essences de chênes se sont retrouvées plus ou moins regroupées. Et notre chêne sessile, dans son génome, dans la partie qui permet de se développer dans ses gènes, il a une partie de chêne pubescent qu'on trouve en zone méditerranéenne. Et donc, ce chercheur nous a dit que peut-être que l'impact de l'évolution du climat, l'évolution va conduire à ce que quand le gland, alors je schématise, le gland va germer, il va se dire le climat n'est pas terrible, c'est un peu comme au sud, donc je vais favoriser les gènes qui viennent de mon chêne pubescent au détriment des gènes du chêne sessile. La seule difficulté qu'on a, c'est que le retour sur le chêne est entre 180 et 200 ans. Donc vous imaginez bien, quand on vous parle en 2050, c'est peut-être un peu court, mais ça fait partie des espoirs et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que le combat est perdu, mais il faut travailler pour aider justement à développer ce renouvellement d'essence et à investir en forêt, parce que l'objectif, les forêts vont changer, ça c'est sûr, elles n'auront pas le même aspect, elles seront peut-être plus ouvertes avec d'autres essences et autres, mais elles existeront toujours. Et l'objectif, c'est de garder notre richesse, notre patrimoine commun forestier, qui est 17 millions d'hectares. Il faut savoir qu'à la fin du 18e siècle, début du 19e, on avait à peine 7 millions d'hectares de forêt sur notre territoire.
Alors hier, on était avec Mathias Bonneau. Mathias a écrit un livre qui s'appelle Bûcheron, et lui, il nous parlait de l'esthétique du geste et de son travail de bûcheron. Mais il allait bien au-delà. On reconnaissait avec lui la fonction économique de la forêt, la fonction sociale, la fonction aussi environnementale. Est-ce que vous, de votre point de vue, ces trois fonctions sont vraiment reconnues, prises en compte ?
Alors, elles sont prises en compte de plus en plus, notamment par la société civile, je vais dire le citoyen que je suis aussi. Parce qu'à une époque, on pensait toujours qu'avec la technique, on allait résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas vraiment le cas. Et puis, quand on regarde les données... Alors, ce que je dis, c'est... Moi, j'ai une vision globale. Hein, je ne parle pas de votre région, je ne parle pas de certaines régions. J'ai une vision globale au niveau national. Ce qui se passe, c'est que globalement, quand on a les données de l'Observatoire national de la biodiversité, on constate globalement, depuis les années 80, une érosion de la biodiversité. Ça, c'est pas un scoop, hein, tout le monde. Voilà, on est bien conscient. Par contre, quand on regarde par rapport à ce qui se passe dans les plaines agricoles et ce qui se passe en ville, les forestiers, ils n'ont pas forcément à rougir de ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, on est à moins 3%, alors que dans les plaines agricoles, on est à moins 40%. Je ne dis pas que c'est bien, parce qu'on est à moins 3 quelque chose, 3%, mais on est quand même moins mauvais que les autres. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, je vais vous donner un exemple d'un département que je connais, l'Eure-et-Loire. On avait fait une étude il y a quelques années, c'était un contrat vert pour faire l'état de la biodiversité dans les forêts publiques de ce département, qui représente 5% de la surface du territoire du département. Donc c'est vraiment rien du tout. Et sur ces 5%, les études qu'on a menées, on avait plus de 50% de la biodiversité du département sur les 5% de ce territoire. Donc, il y a cet intérêt majeur. Pourtant, c'est des forêts qui sont cultivées depuis des siècles par les forestiers. Mais c'est important de l'avoir. Et puis, un petit volet d'histoire, parce que le forestier, notre métier, on est des passeurs d'histoire, je vais le dire comme ça. Parce qu'on a du respect pour ceux qui nous ont transmis les forêts telles qu'on les a. Et nous, on essaye d'être aussi bons qu'eux pour transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Et le premier document de protection des forêts, c'est le code forestier publié en 1827. Il faut le considérer comme le premier code de l'environnement. Parce qu'à l'époque, comme il n'y avait que 7 millions d'hectares, l'objectif de ce code, c'était de réduire fortement les opérations de défrichement, c'est-à-dire d'élimination de la forêt, de mieux gérer tout ce qui était les pâturages en forêt, de manière à assurer le renouvellement des forêts. Et avec ses défauts, comme tout document, il a quand même eu la qualité de faire passer la surface forestière de 7 millions d'hectares à 17 millions d'hectares.
Alors, on passera la parole à Jacques, mais juste pour planter le décor et terminer cette petite première partie, et après on reviendra et avec vos questions, j'imagine, parce que risque naturel, vous en avez parlé, l'eau, vous en avez un peu effleuré, la chasse, vous l'avez un petit peu juste effleuré, mais c'est un sujet, notamment dans des départements comme les nôtres. Mais sur le bois, moi je voulais juste une dernière question avant de donner la parole à Jacques sur la place prépondérante de ce bois. Mais par contre, il y a quelque chose de très important dans ce livre, c'est que vous dites tous les deux, puisque vous l'avez coécrit, que c'est indispensable, essentiel d'investir dans cette filière, on va dire, si on peut l'appeler filière.
Alors, oui, parce que le bois, c'est encore le meilleur matériau pour stocker le carbone. Donc ça, c'est un fait, c'est scientifique, c'est pas redémontré. Il y a un gros travail à faire, puisqu'on est à peu près, quand on regarde l'utilisation du matériau bois, il y a des progrès, je dirais, à faire, parce qu'on a à peu près 57 millions de mètres cubes. Hein, je vous donne les chiffres, c'est des moyennes. Hein, 57 millions de mètres cubes par an qui sont produits chaque année. Et quand on regarde à la fin, il y en a beaucoup, il y en a 39 millions de mètres cubes qui terminent dans les chaudières, d'une manière ou d'une autre. Et on se dit, on ne stocke pas tant que ça. Bon, on fait des économies sur les essences, sur les énergies non renouvelables, et pétrole et autres, gaz, et voilà. Mais voilà, il y a peut-être un travail à faire d'amélioration, d'utilisation des déchets pour mieux les valoriser dans quelque chose qui serait stocké. Et puis, dans l'industrie, vous me tendez la perche, parce que ça, c'est quand j'essaye de rencontrer avec les gens de la profession, de l'Interpro, France Bois Forêt, aller rencontrer des élus, leur expliquer l'intérêt de la forêt. En France, on se dit toujours qu'on est les meilleurs pour tout, mais on a un gros souci sur l'industrialisation autour de la forêt, dans le bon sens du terme, la transformation. En France, comme je vous ai dit tout à l'heure, 25% de la production de chêne, c'est un bois avec très haute valeur ajoutée, je passe les détails. Mais quand on regarde les statistiques européennes, nos côtés, on a toujours tendance à regarder de l'autre côté du Rhin parce qu'on pense que les Allemands ils sont forcément meilleurs que nous. Et puis là, les Allemands, ils ont un tiers de surface forestière en moins, 11,6 millions d'hectares, ils produisent 32 millions de mètres cubes de bois. Et puis à la fin, il y a quand même 1 200 000 personnes qui travaillent dans la forêt et la transformation du bois. Et puis quand on regarde la statistique française, on se dit, ouais, nous, on a 57 millions de mètres cubes de bois produit, on a plus de 17 millions d'hectares de forêt, il y a 400 000 emplois. Alors soit on est hyper productif, quand on connaît les Allemands, je ne suis pas sûr. Par contre, où ils sont les au moins 800 000 emplois qui se promènent et qui sont volatilisés? Alors il y a un vrai sujet autour de ça, l'exportation. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur plein. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer si vous avez des questions. Mais il y a un vrai sujet où on parle toujours qu'il faut transformer localement, il faut garder nos produits, voilà. Ça me fait penser à la crise du Doliprane, je dis ça comme ça au hasard. Mais on a une ressource locale, on a la possibilité de le transformer, de le valoriser, d'éviter que nos morceaux de bois ils fassent tout le tour de la terre avant de revenir chez nous. Et on n'est pas capable de le faire. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est pas moi, c'est, je pense, la profession qui doit se bouger. C'est des décisions politiques. Et dans vos vallées, dans un certain nombre de vallées que je connais aussi dans les Vosges, où la question de maintien des emplois, c'est compliqué, je pense qu'il y a quand même un sérieux effort à faire pour redonner, une visibilité et des emplois. Et on règle une partie du chômage, on règle une partie du paiement des retraites et autres sujets.
Alors,
on peut en parler longtemps.
Gardez le micro juste pour une question et vous allez répondre par oui ou par non. Les 6 limites planétaires sont déjà dépassées. Les organisateurs de salon ont le sens quand même du timing, parce que la 7e, juste avant le salon, et donc on parle aujourd'hui de la 7e, mais ce livre, et c'est là que vous allez répondre par oui ou par non, il vient nous dire quand même qu'il y a urgence, bien sûr, mais qu'il est quand même encore temps d'agir. C'est un message d'espoir.
Oui, c'est un message d'espoir, parce que l'idée, c'est de réveiller les gens. Et l'objectif, c'est qu'on ait un débat de société vraiment sur ce sujet de la forêt. Et je terminerai par ça, parce que tout le monde, nos élus, nous parle souvent qu'il faille faire société, qu'il fallait travailler ensemble. Il y a une belle parole. Et moi, je vais vous donner un seul exemple qui montre que la forêt permet de faire société. J'ai participé à un tout petit niveau à la dernière grande loi forestière qui a été promulguée le 9 juillet 2001. Vous voyez, ça fait bientôt plus de 24 ans maintenant. Et à l'époque, cette loi avait été votée à l'unanimité du Parlement. Donc là, la forêt, c'est peut-être le lieu où on peut faire société.
Merci. C'est oui et non, oui, version Gilles. Alors, Jacques Tassin, vous avez le micro. Donc, Jacques Tassin, il a écrit un bouquin que je vous invite véritablement à lire, « Vivre la forêt », avec une préface d'Alexis Genny. Et « Vivre la forêt », c'est un livre que vous avez écrit avec 25 chercheurs. Vous êtes, alors quand même pour vous présenter, vous êtes chercheur en écologie végétale, vous êtes auteur à succès, pour ceux qui suivent ce salon, on vous connaît notamment Penser comme un arbre, et vous nous invitez dans ce bouquin à une balade sensorielle, aventureuse, en symbole avec les arbres. Et c'est vrai, Jacques, que vous avez le don, et en lisant ce livre, on le voit, et en lisant les autres, on le voit, vous avez le don de parler des arbres de façon sensible, ça c'est vraiment très intéressant. Mais quand même, et là c'est fait avec 25 chercheurs, sans s'éloigner de la rigueur scientifique. Alors l'ouvrage, il est paru, vous le savez, puisque vous l'avez rencontré sur les stands, chez Odile Jacob. Et vous me corrigerez si je me trompe, c'est une réflexion à la fois philosophique, touchante, qui fait le lien entre science, expérience, considération philosophique, mais avec un leitmotiv quand même qu'on n'oublie pas, jamais se contenter d'une idée reçue. Urgence climatique, nécessité du développement économique, l'humanité et la forêt, c'est autant de questions. Ont-elles un avenir commun ? Alors ce livre, et vraiment, encore une fois, je vous invite vraiment à le lire, même si au premier abord, c'est dur des fois, hein, il croise des approches disciplinaires pour envisager une cohabitation harmonieuse. Bref, c'est une relation plus sensible au vivant qui nous entoure. Et donc la première question, Jacques, puisque je crois qu'on est entre 8 et 10 milliards sur Terre maintenant, on a tous besoin des forêts, hein, tous.
Voilà, ça devient une banalité de dire ça. Bon, les raisons, vous les avez énumérées, et bon, je ne vais pas en rajouter, mais l'humanité s'est fondée, mais vraiment dans tout son déroulement, sur la forêt, depuis sa genèse jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on a toujours besoin du bois, on a beau recourir à d'autres sources d'énergie, on ne peut pas se passer du bois.
Et je disais, en vous présentant, que ce livre, c'est une collaboration avec des chercheurs. C'est entre la science et la société.
Alors l'idée, c'était effectivement de tirer parti du savoir, de l'expérience de ces 25 chercheurs, mais aussi se saisir de leur propre vécu, puisque la plupart du temps, ce sont des gens qui ont vécu en contact avec les réalités des forêts tropicales, que ce soit les forêts elles-mêmes ou les peuples qui les habitent. Et donc, il s'agissait effectivement de tirer parti de cela, parce que quand on écrit des publications scientifiques, on reste toujours très sectoriel, enfin très, très ponctuel, et on ne raconte pas ça, quoi. On ne raconte pas cette expérience qu'on acquiert au contact, alors qu'il y a un contact objectif, mais aussi sensible, parce que c'est le corps aussi qu'on emmène avec soi, forcément, lorsque l'on part en découverte d'une forêt. Donc, à la faveur de tout cela, il s'agissait effectivement de dérouler le fil et de questionner ce qui peut être effectivement des idées reçues, parce que nous avons, nous aussi, occidentaux, nos imaginaires de la forêt, comme les non-occidentaux ont aussi la leur. Donc, ça paraissait indispensable de faire toujours un pas de côté par rapport à tout le discours qui, finalement, n'est peut-être pas toujours aussi ouvert qu'on le pense, quelle que soit la direction qu'ils prennent. Alors, autour de la forêt.
C'est 25 chercheurs de l'unité forêt-société, mais quand même, vous l'avez dit, bien dit, c'est quand même très, très ancré dans le réel, notamment dans le réel des territoires.
Oui, c'est le but, quoi, effectivement, de ne pas partir trop dans la stratosphère, dans les concepts éthérés, etc. Non, là, il s'agissait bien de rester à hauteur d'homme ou à hauteur d'arbre. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut dire, les deux à la fois. Et effectivement, se positionner à l'échelle des territoires, parce que c'est là où se joue la réalité à la fois des processus écosystémiques, mais aussi des réalités humaines. Bon, quand on parle de services environnementaux, c'est à l'échelle des territoires que ça se joue le plus souvent.
Alors là, on va peut-être partir dans la stratosphère, désolé, mais il y a une question que vous posez, c'est humanité et forêt, est-ce que c'est compatible ?
C'est vrai qu'on part sur l'idée, mais là aussi c'est notre imaginaire, que ça ne l'est pas, alors qu'en réalité il y a plein d'exemples, alors on peut commencer par des exemples en faisant court, hein. des exemples historiques, notamment dans les sociétés mayas, où on parle aujourd'hui d'agriculture urbaine. C'est-à-dire que les Mayas étaient parvenus à concilier le développement de civilisations avec l'architecture qu'on connaît, tout en ayant des villes très étendues, très amples, où il y avait une agriculture, mais où il y avait également une présence de la forêt. Donc une conciliation. Alors, il y a un trait particulier quand même, c'est qu'eux, ils n'avaient pas la céréaliculture. C'est la culture des céréales qui a induit cette disjonction entre le monde de la forêt et le monde humain. Donc ça date essentiellement du néolithique, 10-12 000 ans.
On va revenir sur l'histoire, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, puisqu'on fait le lien entre l'histoire et l'avenir, et vous nous parlez d'une nouvelle, je ne sais pas qu'on pourrait dire, une colocation avec la forêt, une colocation avec les arbres.
Oui, ou une cohabitation. Une coexistence, ou une synergie. Il y a effectivement quelque chose à retrouver parce qu'on l'a perdu, parce qu'on a du mal à intégrer aussi. Bon, tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce qu'effectivement on arrive bien à penser à la fois, quand on parle de forêt, l'économique, le social et l'environnemental, En réalité, c'est difficile, il faut reconnaître. Et on nous a tellement habitués à penser en silo, hein, de manière cloisonnée, qu'on a aussi ce travail à refournir qui nous permette ben, finalement d'envisager la forêt dans toute sa complexité, dans toute son ampleur et dans son histoire et dans l'ensemble de ses effets, ce qui n'est pas rien. Mais ça, il n'y a pas de choix, il faut le faire. Quoi. Il faut faire l'effort d'avoir cette vision large de la forêt.
Et on le voit bien à travers vos écrits avec les chercheurs, cette notion de consensus, le consensus autour de la gestion durable, puisque vous parlez d'environnement, il n'y a pas de consensus dans le monde.
Ben non, c'est vrai que là ça fait partie des idées reçues qui laissent penser que la déforestation d'emblée est mal. J'utilise un terme court volontairement. Évidemment, lorsqu'on va dans les pays dits en voie de développement, si la déforestation génère du développement d'écoles, de centres de soins, des revenus économiques dont l'ensemble de la population peut bénéficier, immanquablement, cette déforestation, on la voit autrement. Et c'est normal. Et d'ailleurs, nous, on a bien procédé comme ça pour arriver en 1840 au minimum, forestier en France.
Et sur deux mots sur l'histoire, là, vous le dites parce que vous le rafraîchissez nos idées. Moyen-Âge, le bois manque, Colbert impose le reboisement. Début du 20e siècle, un million d'hectares de pins, et Gilles le disait, sont plantés dans les Landes. Là aussi, vous allez voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'on se dit par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est bien de faire maintenant? Ouais.
Alors après, c'est vrai que dans les exemples que vous donnez, pardon, mais vous donnez beaucoup d'exemples de plantations. Et en réalité, la forêt, c'est peu la plantation. C'est un faible pourcentage. En France, je crois que c'est 83% de la forêt qui est productive, hein, qui est gérée, mais qui s'auto-renouvelle, bah, qui se régénère. Et les plantations, c'est... Bon, finalement, heureusement, ça veut dire qu'on s'en sort bien, enfin, on se débrouille bien, quoi. On arrive à gérer les forêts en jouant sur leur régénération. Bon, il n'empêche que à l'échelle mondiale, bon, on a à peu près 10 millions de forêts qui disparaissent chaque année, donc il n'y a pas d'autre alternative, effectivement, que la plantation.
Et de la lutte. Vous parlez aussi dans ce livre de la lutte contre la déforestation, ouais. Contrat légitime. Alors, on parle du Sud global, mais c'est un contrat légitime, vous dites.
Oui, bah, c'est indispensable, enfin, pour indispensable. Toutes les raisons que vous avez données. Et le principal moteur de la déforestation, c'est l'agriculture. Alors, de mémoire, c'est un peu plus de 40% pour l'agro-industrie, de la part de l'agro-industrie. Alors, ça se joue essentiellement en Amérique latine et puis en Asie du Sud-Est. Et puis 30 et quelques pourcents en Afrique. Et là, c'est l'agriculture familiale qui opère. Mais donc, le trait commun entre les deux, c'est l'inéquité, finalement. C'est ce fait qu'il y a des tout-puissants finalement, s'arrogent un droit de propriété sur la forêt, qui déboisent pour produire du soja, de l'élevage, etc., ou de l'huile de palme. Et puis, il y a les pauvres, les miséreux, qui n'ont pas d'autre choix pour avoir un terrain pour cultiver que de défricher la forêt. Donc c'est vraiment cet écart et cette disparité économique et sociale dans le monde qui génère au premier plan la déforestation.
Et puis vous donnez un exemple qui est assez sympa en Afrique, dans les exemples de gouvernance locale en Afrique avec des outils innovants. Donc ça veut dire qu'on peut être quand même imaginatif. Alors vous parliez de cartes interactives ou des jeux sérieux en prouvant qu'il est possible d'inventer un partage équitable des communs.
Oui, alors bon, commun, c'est là aussi, on est dans une projection assez occidentale. Même s'il y a eu des communs chez nous, c'est pas sûr qu'il y ait des communs partout. Et on a tendance à rêver aussi la possibilité de forêts communautaires dans les milieux tropicaux. Donc c'est aussi la difficulté. Quoi.
Alors Gilles le disait sur le... Et vous venez de le dire d'ailleurs, sur le développement économique et tout, mais on est quand même dans un conflit permanent entre conservation de la biodiversité et développement économique, toujours.
Ben, toujours non, enfin, on peut très bien concilier les deux. Enfin, moi, je prends
les questions seront pour vous tout à l'heure.
Oui, mais je prends un exemple qui reste forestier, c'est la forêt linéaire que constitue le bocage. Et le bocage, c'est vraiment une conciliation ultime de la biodiversité et puis de la production, parce que bon, maintenant, les haies Enfin, on y revient, on apprend à leur faire produire du bois, enfin, en tout cas à tirer parti du bois, parce qu'elles produisent du bois. Mais cette conciliation entre biodiversité et production, elle est fondatrice de la constitution du bocage. Et ce n'est que récemment, avec aux premières heures du remembrement, j'ai toujours une hésitation, je veux dire s'il faut dire démembrement, parce que pour moi ça ressemble plus à un démembrement qu'à un remembrement. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on s'est retrouvé avec des haies qui, malheureusement, ont perdu de leur utilité productive, alors on a cru qu'elles avaient perdu de leur utilité productive. Et actuellement, on réapprend finalement à tirer du bois et d'autres produits à partir des haies.
Et pour terminer ce décor qui sera bien planté avant vos questions, vous dites aussi que vivre la forêt, ce n'est pas vivre avec, mais c'est par ou dans la forêt. C'est prêter attention au point de vue de l'être, de l'autre, humain comme non humain. Ce n'est pas une belle conclusion, mais presque.
Je ne sais pas si on en est à la conclusion, mais en tout cas, effectivement, l'idée, vivre la forêt, c'est déjà une formule ou une figure d'empathie. Effectivement, c'est pas se mettre à la place de la forêt, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour se mettre à la place de la forêt, mais en tout cas, c'est essayer de raccourcir le plus possible la distance qu'on peut avoir avec la forêt. Et des fois, il y a des pièges, hein, parce qu'on on croit dans notre imaginaire se rapprocher de la forêt, mais en fait, on peut être en train de la magnifier, on peut être en train de la transformer dans notre imaginaire, et finalement, la perdre de vue.
Et dans ce que vous avez voulu faire avec ces chercheurs, écrire, si vous deviez résumer ce message central que vous avez voulu faire passer, ce serait lequel ?
Alors, c'est un message d'optimisme. Alors, qui ne réfute pas le fait que on va passer des moments très très désagréables. Ça, c'est absolument certain. Mais de toute façon, il n'y aura pas d'autre choix pour rebondir que de retrouver alliance avec l'ensemble du monde vivant, évidemment avec la forêt qui est constituée d'arbres qui sont eux-mêmes de grands facilitateurs et de grands régulateurs du vivant.
Alors, bien évidemment, les questions sont pour vous tout à l'heure. On y reviendra une fois qu'on aura entendu nos trois invités. Franck, merci infiniment. Franck Lirzin, vous êtes polytechnicien, ingénieur et écrivain. Je ne savais pas que c'était compatible, mais finalement, c'est compatible.
Je me souviens.
10 ans au ministère de l'Économie et des Finances, où vous avez notamment conseillé le président sur les enjeux d'innovation et d'industrie. Aujourd'hui, vous êtes un acteur de transformation des villes et vous êtes l'auteur d'ouvrages sur les enjeux de la transformation des villes, innovation, changement climatique. Et vous êtes également engagé par l'association Habitat Humanisme d'insertion des personnes vulnérables. Et vous venez de publier, et là, je vous le montre, il est là. Vous allez voir, c'est un point de vue très différent. Vous venez de publier aux éditions de l'Aube « Quand un arbre raconte le monde ». C'est un roman où vous donnez la parole au doyen des arbres de Paris, le robinier, un faux acacia, qui pousse en face de Notre-Dame. Alors, coupé 3 fois, frappé par la foudre, déplacé, transplanté, transonné, maçonné, étouffé de lierre, menacé de mort à 5 reprises, plus vivace que jamais, robinier premier, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé, a décidé de prendre la parole. C'est un arbre célèbre, il a 423 ans, c'est le plus vieil arbre de Paris, il nous raconte sa vie, il nous fait voyager à travers le temps, il nous donne les clés d'une nouvelle alliance avec la nature. À travers ce récit, Franck, nous découvrons avec vous un voyage de la naissance de cet arbre comme simple graine sur des terres des Indiens d'Amérique jusqu'à son arrivée à Paris. C'est vraiment une très très belle approche romanesque, très différente de nos deux auteurs, accessible pour nous éviter à nous ouvrir nos yeux, nos oreilles au message de la nature. Alors vous vous êtes demandé, quelles étaient les pensées d'un arbre, de celui d'un jardin, dans le parc que vous traversez tous les jours, je crois. Vous passez devant tous les jours et vous vous posez la question de quelles sont les pensées d'un arbre.
Effectivement, merci Jean-Luc, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est un roman, donc ce qui est une approche différente. Et il commence par une jeune femme qui est étudiante et qui a un moment de sa vie où elle se sent un peu malheureuse, pas bien dans sa peau, mais elle s'assoit sous cet arbre, qui est effectivement à Paris, qui est un arbre à côté de Notre-Dame de Paris, et l'arbre lui adresse la parole. Alors elle est un peu surprise, évidemment. Il se présente, il lui demande qu'est-ce qui se passe, et il comprend qu'elle a beaucoup de questions, il lui propose un serment. Il lui dit, écoute, reviens me voir à chaque saison, l'été, l'automne, l'hiver. Chaque fois, dis-moi comment tu vas, et moi, je te raconterai ma vie. Et donc, effectivement, il commence sur ses origines, puisque c'est un robinier faux acacia qui vient d'Amérique du Nord et qui était un arbre utilisé, connu, respecté par les Indiens d'Amérique. Et donc, effectivement, l'histoire commence là, dans sa vie de petite graine sur les monts Appalaches. Et ensuite, on suit ses pérégrinations depuis les Amériques, en passant par l'Angleterre, parce que c'est les Anglais qui ont ramené cet arbre en Europe, à Paris, où il a été planté par Henri IV. Souvent, on pense que les arbres sont fixes, mais lui, ce n'est pas le cas. Et on suit aussi, après, tous ses descendants, et notamment ceux qui sont ici dans les forêts, sont très probablement les descendants de cet arbre, de cet individu, qui a été planté à Paris en 1601, dit la légende, par le jardinier d'Henri IV.
Alors, avec le souci du détail, puisque vous nous racontez que ce n'est pas un ouragan qui arracha cette graine, mais un humain, et vous nous racontez le voyage donc, qui traverse l'Atlantique dans un navire anglais, vous venez de le dire, 1584, 15 ans de voyage pour ces graines, ce n'est pas rien. Et puis là, c'est vraiment raconté par le détail, 3 échecs, parce qu'il y a plusieurs graines, 3 échecs, et puis finalement, celle-là qui pousse et qui se développe.
Alors effectivement, c'est donc l'arbre qui raconte sa vie. Alors, l'originalité, c'est qu'il dit « je ». Donc, c'est un arbre qui parle, mais du coup, l'écriture, enfin, c'est aussi de se mettre dans la peau d'un arbre, dans l'écorce d'un arbre. Et c'est une expérience aussi assez bouleversante. Je pense que quand on parle arbre, je pense que vous avez tous, vous pouvez penser à des arbres que vous connaissez, des arbres que vous avez vus, dans lesquels peut-être vous avez noué des liens avec cet arbre. Et donc le fait effectivement de se placer auprès de cet arbre, de prendre le temps de le regarder, de le comprendre, de le sentir, d'utiliser ses sens en fait pour retracer un peu qui il est, sa façon de fonctionner, son histoire. C'est une façon de créer ce lien avec cet arbre. Et le roman, c'est une projection, c'est de sortir de nous, de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, si je puis dire, ou d'un autre être vivant. Donc ça fait tomber beaucoup de certitudes hein, sur la façon de qui on est en tant qu'être humain. Et on s'embarque effectivement dans ce récit intime, et c'est aussi une expérience en fait, personnel de comprendre une sorte d'empathie, enfin, comment sont les autres êtres vivants, comment ils voient le monde, comment ils se transportent.
Et au-delà de l'histoire, parce qu'il y a des petits messages subliminaux, vous allez me dire non, mais quand vous dites les invasions sont d'abord douces, en parlant de l'arbre, Polly, l'envahisseur, arrive en catimini, il est presque honteux, il arrive sans bruit, à la moindre occasion, il se présente, il s'étend, il s'épanouit, c'est pas un message politique. Hein.
Il y a même eu certains commentateurs qui ont dit « Lisez ce livre, si c'est un anti-Trump ». Je ne sais pas si ça n'a pas été écrit pour ça. Oui, effectivement, mais c'est en écrivant, j'ai aussi découvert, c'est ce que disait Jacques, en fait, sur leur relation avec la nature, sur les arbres. Puisqu'en fait, l'histoire commence quand les colons britanniques arrivent en Virginie. Et ils rencontrent les Indiens qui les accueillent en fait, très pacifiquement. Alors, pour vous situer, c'est la tribu de Pocahontas. Et donc, les Indiens sont heureux, en fait, enfin, curieux. Ils font visiter, ils accueillent, en fait, ces Anglais chez eux, sachant que très peu de temps après, ils seront massacrés par ces Anglais. Et ces Indiens, ils ont, dans l'art pour eux, c'est standing people. C'est les êtres qui portent le monde. Et donc, ils ont énormément de respect pour ces arbres. Et c'est exactement ce que tu décrivais. Ils vivent. Les arbres font partie de leur univers et eux-mêmes font partie de cet univers. Il n'y a pas de coupure. Leurs villes, d'ailleurs, sont dans les forêts. Il y a des arbres qui sont dans les villages. Ce n'est pas des villes comme les Mayas. Donc, il y a un message politique parce que finalement, les Occidentaux qui arrivent, ils apportent avec eux en fait, l'exploitation du bois parce que toutes les forêts ont disparu en Virginie. Ils ont massacré tous les Indiens. Toute la langue a disparu. On garde quelques traces. Mais tout ce monde-là s'est effondré en fait, hein, avec l'arrivée des colons. Et sur l'arbre, il est témoin de ça. Et en fait, il trace aussi toute cette histoire-là. Quand il arrive à Londres, il est effrayé en fait, par les forêts qui sont décimées, laminées. Il ne comprend pas, en fait. Et les villes, il ne comprend pas qu'il n'y a pas d'arbres en ville.
Et vous glissez comme un message subliminal que l'espèce humaine, c'est comme une espèce pionnière, elle est invasive. Les hommes sont pareils aux arbres, leur esprit est dans le ciel, mais leurs pieds sont bien attachés à la terre.
Oui, effectivement.
Alors, qu'est-ce que, puisqu'en fait là on est entre science, récit, roman, là on est vraiment dans le roman, mais qu'est-ce que, j'allais dire comme à Jacques, qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message? C'est une belle histoire d'écoute, de compréhension entre ces êtres, mais qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message?
Je crois que ça rejoint ce message d'alliance. C'est le terme que j'utilise aussi, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, historiquement, l'espèce humaine était dans la forêt, hein, était un animal de la forêt, avec cette conscience aussi, des fois, d'avoir un rôle à jouer en fait, hein, dans le bon fonctionnement, d'être quelque part les gardiens de l'ordre du monde, si je puis dire. Et on l'a oublié. En fait, on redécouvre aujourd'hui, alors, par la forêt, moi je le vois aussi, parce que je travaille sur la ville, donc il y a beaucoup de projets d'adaptation au changement climatique. On a besoin, en fait, de la nature, que ce soit j'étais pas longtemps à Soulac, où effectivement ils renaturent les dunes en essayant de faire pousser des arbres, même si c'est pas facile pour eux, les pauvres. Mais du coup, pour s'adapter au changement climatique, pour lutter aussi contre toutes les émissions, quelque part, la clé c'est de renouer ce lien avec la nature, de lui faire confiance. C'est pas juste technique, mais c'est aussi de redonner une place. Et ça vaut pour les villes. Il y a beaucoup de villes qui vont dans ce sens-là, donc c'est très positif. Et donc, c'est de faire revenir là, les arbres dans nos rues, dans nos villes, dans nos quartiers. Donc c'est ce message du livre.
Avec Sixtine et ce robinier premier qui parle, notre relation à la nature, c'est un plaidoyer que vous vouliez plaidoyer de retour à la nature, de vivre avec la nature, de vivre dans la nature, même dans les villes.
Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est de ne pas ni mettre la nature à distance, ni de l'idéaliser non plus, parce qu'on voit que c'est pas non plus un Éden qu'on va retrouver. Il y a aussi la nature, elle est diverse, contradictoire. Mais c'est peut-être de la respecter, de lui redonner une place. Et le but du livre, c'est de la comprendre aussi. Parce que souvent, en fait, on s'est quand même... Soit on s'est éloigné, soit on a perdu ce savoir, soit on ne l'a jamais eu. De savoir qui sont les arbres, ou quelle est la nature. Donc c'est aussi de... Si je puis dire, une sorte d'éthique de l'autre... dans lequel on va essayer d'abord de comprendre en fait ces autres êtres vivants avec qui on partage la même planète, donc le même combat si je puis dire, puisque la vie est quand même très fragile, et donc pour pouvoir faire alliance il faut d'abord comprendre, et donc c'est effectivement l'enjeu de se mettre dans la peau d'eux ou dans l'écorce d'un arbre pour avoir cette compréhension de qui ils sont.
Et cette graine là, pour dans le très concret de la ville, puisqu'on fait le lien entre votre métier, vos aspirations et ce roman, donc ce robinier premier planté à une époque où on plantait assez peu d'arbres en ville. Aujourd'hui, je ne sais plus quel est le chiffre, mais on plante beaucoup d'arbres en ville. Donc ce robinier premier fait le lien entre deux époques fondamentalement différentes.
Oui, il y a eu historiquement, il n'y a pas ou peu d'arbres en ville, ou des arbres fruitiers, mais c'est quand même assez marginal. Le grand moment, c'est Haussmann à Paris. Effectivement, avec le mouvement qu'on appelait hygiéniste, dans lequel on considérait que les arbres étaient une façon de lutter contre les maladies, parce que ça amenait avec la lumière, l'air, les arbres, la végétation. Donc c'était plus ou moins vrai, mais bon, c'est pas très grave, puisqu'à la fin, on est très heureux qu'il y ait plein d'arbres en ville. Et là, aujourd'hui, il y a un regain aussi d'intérêt pour les arbres, avec toujours un peu cette ambivalence entre l'envie un peu d'affichage, si je puis dire, et la réalité, puisque pour que ça, les arbres, à la fois, ils puissent vivre, il faut qu'ils aient de l'espace, de l'eau, de l'accès au sol. Ça arrive, je pense, à Paris, on met des arbres en pot. Hein, donc, c'est pas la meilleure chose à faire. On les espace, et donc, finalement, pour rafraîchir les rues, ça a peu d'intérêt. On les isole les uns des autres. Donc, là aussi, pour que les arbres, à la fois, nous soient utiles et toute leur place, il faut comprendre, de façon très profonde, quelque part, leur mode de fonctionnement à eux, et les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent vivre dignement.
Alors, comme chez Jacques, comme chez Gilles, ce livre, il est formidablement documenté, historique, botanique et tout, mais avec cette façon amusante, on va dire, de découvrir comment cet arbre, ce qui nous est posé comme lecture, c'est comment cet arbre a conquis le monde en quelques siècles, en fait.
Oui, parce que alors, c'est un arbre qui a du caractère. Vous connaissez peut-être les robinets faux acacias. Alors, je sais que certains en ont chez eux. C'est des fois des plantes un peu compliquées et envahissantes. Donc, effectivement, c'est des arbres pionniers. Donc, c'est des arbres qui vont dans les terrains un peu où il n'y a pas d'autres arbres. Ils préparent derrière le terrain pour d'autres arbres. Donc, finalement, il a un caractère à la fois comment dire, aventurier, un peu solitaire aussi, un peu ronchon, des fois un peu caustique aussi. Et aujourd'hui, on le trouve sur les 5 continents, Chine, Nouvelle-Zélande, donc il a en quelque sorte conquis le monde, alors pas tout seul, avec notre aide, évidemment, mais par exemple, il est utilisé en Chine, dans le berceau historique de la Chine, en fait, qui est devenu un désert, en fait, qui était un paradis terrestre, qui est devenu un désert, en quelques années, à cause de la surexploitation des terres, à cause de mauvaises pratiques agricoles. Et les Chinois ont planté cet arbre, justement, pour reverdir ce grand territoire. Les images sont impressionnantes, on passe d'un désert à des collines verdoyantes. Et tous ces individus-là viennent de 2 individus. Celui, effectivement, qui est à côté de Notre-Dame de Paris, donc c'est le Français. Et il y a un autre individu qui a été ramené par les Anglais un peu plus tard, qui est en Angleterre. Voilà. Donc, il y a un débat sur quel a été le premier. Donc, dans le livre, je considère que c'est les Français qui ont été les premiers à acclimater cette arme. Mais quand on fait les études génétiques dans le monde, tous viennent de 2 individus qui ont été ramenés au début du XVIIe siècle par les premiers colons.
Et puisque vous faites le lien toujours avec la politique de la ville, mais vous mêlez réalité historique, fiction et tout, et vous l'avez dit, hein, puisque repenser le lien de l'homme à son environnement, mais ce que vous préconisez dans ce livre, in fine, c'est un changement radical à la nature, et puis qu'il faut replacer l'arbre, et ce sera le dernier petit mot avant d'échanger, hein. Je ne sais pas si vous les avez lus, les uns et les autres, et si vous ne l'avez pas lu, vous allez le lire ce soir, mais c'est changement radical, replacer l'arbre au centre de nos vies, et notamment de nos vies urbaines. Ça, c'est très important.
Oui, c'est très important, parce que dans les arbres en ville, mais je pense que vous le vivez, ça que des vertus. Mais je ne vais pas énumérer, vous le savez, ça rafraîchit, ça, c'est beau pour l'œil, ça dépollue, ça permet de gérer aussi les sols. Donc, ça n'a que des vertus. Qui sont connus depuis longtemps. Et donc, effectivement, leur donner plus de place, c'est quelque chose qui est très positif et gagnant-gagnant, si je peux dire.
Alors, Gilles, putain, prenez le micro. Vous l'avez lu, Gilles ? Jacques vient de me dire en aparté qu'il ne l'a pas encore lu, mais vous l'avez lu ?
Moi, je l'ai lu, ouais.
Et alors ?
Eh ben, je trouve ça génial.
Aux scientifiques, forestiers.
Alors déjà, premièrement, je le dis, je l'ai déjà dit quand je l'ai vu, quand je suis arrivé, je trouve ça génial parce que c'est une vue depuis l'arbre, et moi je suis le quartier, je suis hyper cartésien, donc ça me change, ça me fait évoluer ma vision des choses, et je trouve que la vue qu'il en a par rapport à l'acacia, ça peut être d'autres arbres et tout, et nous, moi avec mon côté cartésien, je le vois de l'autre côté, je rentre pas dans la peau de l'arbre, mais quand je suis en forêt, quand on travaille en forêt et qu'on va voir les arbres et qu'on on a des actions de gestion, on est dans cette même situation d'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on choisit un arbre pour l'enlever en forêt, c'est pas en se disant « chouette, on coupe un arbre ». On a instinctivement, on pense peut-être pas qu'à l'arbre, mais on pense à tous ceux, la chaîne humaine qui était derrière, qui nous a permis aujourd'hui de trouver cet arbre et de pouvoir l'utiliser. Donc il y a tous mes collègues qui sont dans la même formation forestière, on a ce même côté, c'est-à-dire que c'est pas on va couper des arbres, c'est chouette, Non, on a ce respect en disant ils ont vraiment bien travaillé, donc on leur doit de le faire proprement. Voilà.
Et puis Jacques, alors même si vous ne l'avez pas lu, vous avez un point de vue parce que vous avez écouté Franck.
Je vais d'abord me le procurer tout à l'heure.
J'ai lu le tien.
Je
te le dis, alors, on s'envoie des fleurs, mais... Je suis inspiré de la sensibilité.
Merci, mais ça met un petit peu mal à l'aise. Mais enfin, je vais corriger ça tout à l'heure. Donc, effectivement, l'arbre, c'est du temps long. C'est forcément la prise en considération de son histoire. Enfin, vraiment, je pense, quel que soit le métier qui approche l'arbre, on ne peut pas échapper à une manière d'envisager la manière dont il a poussé, et puis en remontant le temps, la manière dont éventuellement, s'il était introduit, il nous a rejoint. Et j'aime bien j'ai déjà oublié la formule que tu disais, mais tu as dit, je ne sais plus, figure de l'autre, mais il y a ça aussi dans l'arbre, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous interpelle tous lorsqu'on envisage l'arbre. Pas seulement comme voilà, quelque chose qui est debout, qui nous ressemble bougrement, c'est plus que ça, quoi. C'est une autre forme d'être au monde qui nous interroge aussi, parce qu'aussi on s'aperçoit que ça, ben, un arbre, ça fonctionne bien, quoi. La preuve, c'est capable lui aussi de franchir l'océan pour conquérir le monde, enfin, ou en tout cas être présent dans l'ensemble du monde. Donc il y a toujours à gagner à reconnaître la figure de l'autre. Voilà.
Alors maintenant qu'on va, on est passé du côté du poète, on va revenir au très 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 concret, mais vous apporterez votre point de vue parce que vous en avez un, sur la notion, parce que tout à l'heure je disais, Gilles, que vous abordiez dans votre livre tous les aspects, la chasse, les coupes rases et tout. Et donc avant de lancer le débat dans la salle, dites-nous deux mots quand même sur ce que vous constatez, ce que vous en savez. Alors la chasse, on va peut-être pas s'apesantir encore que, mais sur les coupes rases, qui est un vrai sujet important pour les professionnels de la filière.
Alors sur le phénomène de la chasse, je sais que c'est toujours, on va dire, conflictuel. Il y a des débats autour de ça. Mais si un forestier n'a pas un chasseur qui régule le niveau de la population dans une forêt, on a de sérieux problèmes de renouvellement, comme tu le disais tout à l'heure, sur la régénération naturelle. Les plantations, c'est encore pire, mais même sur la régénération naturelle. Je vais vous donner simplement un exemple, parce que l'avantage d'avoir les cheveux blancs et la barbe blanche, c'est que j'ai quelques années d'expérience. Et à une époque, je m'occupais de l'Observatoire national des dégâts de gibier en forêt. Donc, il y avait des stations, il y avait une étude qui était menée au niveau national. Et on avait retenu quelques départements, dont celui dont je vais parler, c'est les Vosges. Et les données faites par les relevés de terrain, par les études qui étaient menées au niveau du terrain, tendaient à dire que c'était plus la peine de faire de la forêt, parce qu'à partir du moment où il y avait, je dirais, un semis de sapin ou un semis d'épicéac ou d'un feuillu qui sortait du sol, il avait une chance sur 10 d'arriver à l'âge adulte, tellement il y avait d'animaux en forêt. Donc on était dans une situation où il fallait clôturer, enfin, il y avait une aberration, il n'y avait plus l'équilibre. Alors évidemment, tout le monde me dit oui, mais avant, alors il faudrait mettre... on peut parler ici, alors il y en a qui vont hurler, mais on peut parler du loup, on peut parler d'un tas de choses. Mais la problématique, c'est qu'on n'a plus ces grands prédateurs. Alors moi, il y a des gens qui me disent, oui, mais si on avait des loups, bah, je dis oui, mais le cerf, c'est un petit peu gros pour un loup quand même, mais pour une meute, moi je ne suis pas un spécialiste, mais c'est un peu gros. Ça serait plutôt des ours. Alors mettre des ours en forêt de Fontainebleau, je ne suis pas sûr que les gens seraient très cool pour aller se promener après.
Il faudrait un effort de pédagogie.
Voilà. Non, ce que je veux dire, on en a besoin. Alors après, on peut toujours critiquer. Alors il y a toujours le sketch, les bons et les mauvais chasseurs, mais ça, voilà. Mais on en a besoin parce que faut savoir que la forêt, c'est un milieu naturel, subnaturel, on peut dire, parce qu'il y a énormément de forêts en métropole qui sont parcourues, comme je vous l'ai dit, entre 7 et 17 millions. Il y a 10 millions d'hectares de forêts récentes. Mais la forêt produit du matériau, pas que du bois, mais du végétal. On va le faire comme ça. Et elle en produit une certaine quantité par jour. Et un animal, ça mange, voilà, du végétal, que ce soit les chevreuils, les cerfs. Le cerf, c'est un peu comme, je vais faire court, c'est comme une vache. Il lui faut entre 30, 40, voire 50. Il mange tout. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des parcelles où les arbres, au lieu de pousser, ils diminuaient chaque année. Dans des parcelles en régénération naturelle, on avait l'impression d'avoir une belle brosse et chaque année, elle diminuait. Donc, on était obligé de clôturer parce qu'il y avait trop de cerfs. Donc ça... Voilà, c'est des équilibres. Il y a eu pourquoi il y a eu ce déséquilibre ? Parce que avant les années 70, il n'y avait pas de régulation par les plans de chasse. Ça a été créé. L'objectif, c'était d'augmenter les populations pour X raisons. Donc, on a augmenté les populations. Mais maintenant, on est plutôt dans l'autre sens. Donc, il faudrait, je dirais, savoir raison garder. Il faut savoir si on veut faire de la forêt en équilibre avec la faune sauvage, les grands herbivores. Voilà, c'est un vrai sujet autour de ça, de maintien de la chasse. Après, on est pour, on est contre. Mais si on n'a pas de chasse et qu'on laisse évoluer les choses, on n'aura plus de forêt non plus.
Alors, vous parlez les uns et les autres, mais Jacques, je vais vous poser la question, même si ce n'est pas l'objet du livre, mais sur la formation et puis sur, on va dire, cette question forestière qui est une question démocratique, en fait. On devrait tous s'en emparer. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la puissance publique s'en empare suffisamment et que c'est un sujet qui est à la hauteur de... au-dessus de la pile, on va dire.
On peut dire que ça ne ressemble pas beaucoup, quoi. Enfin, même en parlant strictement de filière bois, on observe qu'actuellement, on invite la forêt à suivre l'industrie plutôt qu'inviter l'industrie à suivre la réalité de la forêt. Quoi. C'est un vrai problème. Enfin, il y a un renversement de posture qui est valable en agriculture. C'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on invite l'agriculture à suivre les logiques de l'agro-industrie plutôt que le contraire. Et on se retrouve au bout du compte avec une impasse, avec le monde agricole qui se désertifie. Et puis, alors c'est pas le monde forestier qui se désertifie, mais en tout cas qui multiplie des problématiques qui ne devraient pas être là. Quoi, parce qu'en réalité, on a inversé la posture. On devrait d'abord tirer parti des réalités forestières pour voir finalement comment on peut s'y ajuster. Puis je vais pas reprendre ce que
et dit, quand on parle de politique forestière, de gestion de la forêt, on parle de gouvernance. Est-ce que vous avez le sentiment, de vos points de vue à vous trois, avec vos points de vue différents, qu'on est dans une bonne gouvernance, une gouvernance qu'on pourrait qualifier de partagée, suffisamment partagée?
Je dirais que ça dépend de quel point de vue on se place. Si on est sur, ce que je connais le plus, c'est les forêts publiques, je dirais qu'il y a eu une évolution certaine, c'est-à-dire que les documents de gestion, maintenant, font l'objet d'un débat public. Il y a des échanges avec des associations, des amis des forêts, des choses comme ça, avec les collectivités, parce que les élus sont de plus en plus investis pour les forêts communales. Donc, il y a un débat qui se crée, on explique pourquoi on fait, comment on va y arriver. Le constat, on déroule les choses et on explique le pourquoi aux gens, d'où on part et où on voudrait y aller, et le chemin. Et bon, ça permet d'avoir des échanges, parce que dans un débat public autour d'une forêt, vous avez ceux qui chassent, vous avez ceux qui veulent sortir du bois, vous avez ceux qui veulent faire du VTT, ceux qui veulent trouver parce qu'il y a l'oiseau, je ne sais pas quoi, qui est exceptionnel, machin. Il y a les chauves-souris, il y a ceci. Donc le forestier, une fois qu'on a tout sur la table, c'est comme un cuisinier quand il a tout au milieu, sur sa table, il fait un plat. Et on demande au forestier de faire le plat en fonction de toutes les demandes. Voilà, c'est ça le truc.
Franck, vous rajoutez quelque chose? Et puis, donc préparer vos questions, notamment préparer la première, c'est toujours la plus difficile. Donc, on vous passera le micro. Franck, peut-être sur ce sujet-là.
Sur la partie des villes, effectivement, je pense que c'est très positif. Hein, globalement, le fait que les bienfaits des arbres en ville sont reconnus. Il y a beaucoup de villes qui sont engagées sur le sujet, en France en particulier. Puis c'est assez reconnu dans le monde, d'ailleurs, ce qui est fait en France, mais d'autres villes dans le monde entier. Donc c'est quelque chose qui... je ne sais pas s'il y a un consensus, on n'en est sans doute pas très loin. Après, c'est un art tout d'exécution. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a planter. C'est-à-dire planter des arbres en pot, c'est peu d'intérêt. Donc en fait, la réalité va se passer au niveau de ce qu'on fait vraiment et pas des paroles et des intentions. Donc c'est effectivement là où il y a le plus grand écart aujourd'hui entre les intentions politiques et puis la mise en œuvre.
Allez, les questions, c'est pour vous maintenant. Donc voilà, le micro est à côté. C'est vous, monsieur, pour la première question et merci.
Oui, bonjour. Merci d'abord parce que on a voyagé un peu en forêt, c'était intéressant. J'ai bien aimé ce mot d'alliance. Je pense que c'est un mot qui est central parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à sauvegarder la forêt et à vivre avec de manière sensée et pas idiote. Il y a deux choses que j'aimerais un peu, qu'on peut-être pas assez préciser, parce que vous avez parlé un peu de la chasse, c'était très intéressant d'ailleurs, je vous en remercie. Même si je ne suis pas spécialement chasseur, je pense que c'est un thème intéressant. Mais du coup, on a été coupé sur le sujet des coupes rases. Parce que vous avez parlé de...
Il ne l'a pas dit du tout.
L'industrie qui ne suit pas la forêt et l'inverse. La coupe rase. Et puis un autre sujet, la compensation. Parce qu'on plantait des arbres pour compenser. Voilà. J'aimerais bien qu'on creuse un peu ces deux sujets-là. Moi, qui me semblent un peu centraux autour des objectifs, des discours politiques, de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Voilà. Merci.
Jacques, Gilles, Jacques.
La compensation, c'est une vue de l'esprit. Enfin, ça n'a pas de sens. Quoi. Ça n'a même pas de sens. Une fois que le carbone est parti, il est parti. Quoi. Enfin, d'origine fossile. Donc, je ne sais pas comment appeler ça. C'est une escroquerie, en réalité. Et le pire, c'est qu'on continue. Là, je sais que pendant l'été, il y a eu encore plus d'assouplissement des marchés du carbone. Et c'est absurde. Après, pour les coupes rases, tout très, très, très rapidement, parce que je fais le lien avec l'été, quoi, parce qu'il se passe toujours plein de choses hein, pendant l'été, évidemment. Il faut en profiter hein, quand les gens sont sur les plages. Donc, il y a le plancher des coupes rases. Ça n'a pas été voté, mais en tout cas, est à l'étude et préparé pour être soumis au Parlement, mais est augmenté. Ce qui fait que la France deviendrait en Europe le pays le moins regardant. Là, il est déjà dans les quatre pays les moins regardants en Europe. Et il va encore réussir à être le moins regardant de tous sur la gestion des coupes rases. Mais donc, je laisse la parole.
Alors,
Gilles, oui,
non, rapidement, parce que c'est... le sujet est abordé dans le livre, hein, donc même Canopé trouve qu'on n'a pas été assez en avant, mais bon, je ne suis pas Canopé non plus, moi, Daniel non plus. Mais ils nous ont apprécié quand même sur ce qu'on avait dit. Sur les coupes rases, je pense qu'il faut, il faut le scinder en plusieurs éléments, parce qu'à force de dire les choses simplement, ça devient... on mélange tout, on mélange les choux et les carottes, et bon, pour faire de la choucroute, c'est bien, mais autrement, ça ne marche pas. Et donc... les coupes rases, il y a d'abord tout ce qui est régénération naturelle, comme tu le disais tout à l'heure, tout ce qui est régénération naturelle, à un moment donné, le peuplement, il se retrouve très bas. Mais on a gardé les arbres longtemps sur la parcelle, en forêt, c'est, moi, je vous parle du chêne, hein, que je connais plutôt, que je connais bien, ça se déroule sur une vingtaine, 20, 25 ans, et donc on va avoir les arbres disparaître progressivement pendant que les petits qui ont besoin de lumière se mettent à pousser, voilà. Donc ça, moi, j'appelle pas ça une coupe rase. Quand on enlève les derniers gros, ben, on dit que c'est la coupe définitive, parce que c'est, on arrive, le peuplement est renouvelé, donc tout va bien, le sol est couvert, tout va bien. On peut en discuter, mais globalement, c'est ça. Après, il y a des peuplements qui sont tous du même âge. L'historique des plantations fait qu'à un moment donné, on a des peuplements qui sont tous du même âge. Là, ça devient très difficile de ne pas faire une coupe rase sur ces parcelles-là. Après, on peut le faire... C'est pas parce que c'est difficile que le forestier n'est pas suffisamment intelligent pour essayer de cadencer les choses, réduire les surfaces et de prolonger peut-être un peu plus longtemps. Si on se dit qu'on doit couper à 80 ans, bah on va commencer à couper à 60 et puis on va couper progressivement, renouveler pour créer justement cette disparité dans le temps et éviter ces grandes surfaces. Dans ces sujets-là de coupe rase de grandes surfaces, il y a des zones où ça ne pose pas de problème. Je suis désolé, je vais revenir dans les Landes. Dans les Landes, vous faites une coupe rase de 100 hectares. Les gens dans le coin, ils sont habitués. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et ça ne gêne personne. Je ne dis pas que c'est bien. Attention, je dis simplement que c'est vu comme ça. Après, la coupe rase telle qu'elle est vue, je pense aussi par vous et par Canopé, hein, c'est surtout les peuplements qui sont actuellement en place, qui sont des peuplements avec des essences variées, qui sont plus ou moins jolies, plus ou moins bienvenantes. Le terme bienvenant, c'est de vue du forestier, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment droits, qu'on ne peut pas en faire des produits de qualité. Et c'est de dire, eh ben, ils ne sont pas beaux, même s'ils n'ont pas atteint un âge canonique, eh ben, à ce moment-là, on va tout couper, puis on va replanter autre chose. Et je pense qu'on est plus là-dedans. Ça, c'est une hérésie, parce que c'est avec le sujet du milliard d'arbres. Donc, on va couper des arbres qui stockent déjà du carbone, même s'ils ne sont pas chouettes. Bah, on est un être humain, on a une industrie, on a des chercheurs, on a des gens qui pensent normalement. Et donc, c'est à l'industrie de s'adapter à ces produits-là et pas à la forêt, ce que tu disais tout à l'heure, à s'adapter à l'industrie. Donc, c'est là où il y a un vrai problème. Et puis, pour revenir sur la compensation, donc il y a deux types, je vais en dire deux types de compensation. Il y a celle où on dit, ah, mais on va défricher là parce qu'il faut faire une zone d'activité, parce qu'on va faire une déviation et ainsi de suite. Donc, on coupe de la forêt là, mais on va en mettre ailleurs. Ouais, oui, mais localement, l'intérêt biologique, environnemental et tout, il n'existera plus. Et ce n'est pas parce qu'on va le faire à 500 km qu'on va transférer l'écosystème avec. Donc ça, c'est plus que limite. Et puis la compensation, quand il y a des entreprises, moi je sais qu'on en a reparlé avec des gens qui n'étaient pas forcément forestiers dans le salon, des compensations où les entreprises achètent des hectares de forêt parce que comme ça, ils ont des droits à polluer. Bah, en fait, c'est, comme tu dis, c'est une escroquerie parce que la forêt, déjà, est dépolluée avant qu'ils achètent. Donc, en fait, ils font simplement du greenwashing. Voilà, ils se verdissent et il n'y a aucun bénéfice. S'ils faisaient ça et qu'ils disent, bah, en échange, on va planter, je ne sais pas, 200, 500, 1000, 10 000 hectares en Amazonie, on va replanter sur des terres, des ex-terres agricoles, là, ça aurait du sens. Mais racheter des forêts pour dire qu'on décarbone, ça n'a pas de sens parce qu'elles existent. Le travail était déjà fait avant qu'ils l'achètent.
Allez, une autre question. Qui veut prendre la parole? Oui, monsieur. Et j'en profite pour dire merci aux équipes du Festival Livre en Marche pour tout ce travail bénévole pendant les deux jours et bien avant.
Bien le bonjour. Donc moi, ça va être une remarque qui est plutôt terre à terre. Beldon Nord. Je passe énormément de temps dehors, en forêt, champignons, faire de la photo, tout ça. Quand je discute avec les anciens du village, ils m'ont toujours expliqué qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de cerfs, il n'y avait pas de biches, rien du tout. Maintenant, il y en a beaucoup. Et c'est bizarre parce qu'ils me disent aussi qu'il n'y a jamais eu autant de forêts.
Sur le volume de forêt, c'est vrai.
Et en fait, aujourd'hui, j'ai encore regardé pas mal de reportages cette semaine, et on nous dit qu'en France, il y a de plus en plus de forêts. Donc quand j'entends toujours ce discours de spécialiste, ça me dérange toujours, en fait.
Donc vous dérangez, monsieur.
Non, plus en plus de forêts, oui, parce que c'est des territoires abandonnés par l'agriculture. Ça, de toute façon, la nature a horreur du vide. Et sous nos climats, l'état final, je dirais, d'un sol, c'est les sols forestiers avec des différentes essences autres. Si on laissait, on abandonnait tous nos territoires, je dirais, sans rien faire dessus, à la fin, on aurait des forêts diverses et variées avec différentes essences. Là, l'importance du cerf et des biches, je dirais, sur le territoire, c'est une augmentation. C'est parce qu'on a eu une augmentation. Et au moment, tant que les arbres sont adultes, ça ne pose pas de problème. C'est au moment du renouvellement. Et à l'occasion, si vous allez un jour, il y a un parc animalier à Rambouillet, si vous allez vous promener dans le parc, donc c'est pour découvrir les cerfs, biches, chevreuils, sangliers, en pleine nature mais en clos, dans un grand parc qui fait plus de 250 hectares, vous regarderez le sol, vous avez l'impression d'être sur un terrain de pétanque, il n'y a plus une branche au sol, il n'y a plus... Voilà. Donc, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est la densité, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous n'avez plus rien au sol... Si vous avez une trop forte densité, vous allez perdre les ronces, vous allez perdre les myrtilles, ils vont manger, ils vont chercher à manger. Et en plus, si vous avez des terres agricoles à côté, vous allez avoir des problèmes avec les agriculteurs parce qu'ils vont aller manger dans les terres agricoles. Donc la population de cerfs et biches en France, elle a été multipliée par 10, je crois, en une vingtaine d'années. Donc on a un vrai sujet d'équilibre entre tous, entre ça et le renouvellement. Si on veut renouveler les forêts sans les clore, il faut un équilibre avec la faune sauvage.
Une ou deux dernières questions. Alors, puisque monsieur disait qu'il était dans le pratico-pratique, je voulais être dans le pratico-pratique aussi, peut-être à tous les deux, sur la formation, la pédagogie et puis la formation éventuellement des professionnels. Vous dites, Gilles, dans le livre, qu'il faut intégrer tout ça dans le parcours pédagogique global. Est-ce que ça veut dire que la formation n'est pas suffisante, pas suffisamment prise en compte? Comment
Il y avait une structure qui s'appelait à une époque, dans les années, autour des années 2000, il y avait une structure qui s'appelait à l'école de la forêt. Évidemment, comme il faut faire des économies sur tout, ça a quasiment disparu. Et c'est pas forcément... Alors, il y a plein de professeurs qui s'engagent dans des démarches. Moi, je trouve ça génial. Je vais faire des conférences dans les lycées, dans des facs et tout ça, pour expliquer la forêt. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette culture, à la différence de nos collègues finlandais qui font les cours, même des cours de mathématiques en pleine forêt. C'est-à-dire qu'on demande aux enfants, je te donne, on va dire, un gland, je t'en donne un deuxième, t'en as deux. Enfin, voilà, il y a vraiment une pédagogie autour de ça et du vivre dehors. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Sans vouloir faire de l'histoire des mots, ça vient peut-être aussi de notre histoire gallo-romaine à une époque, puisque à l'époque gallo-romaine, il y avait la Villa Dominici, c'était tout ce qui était utile à l'homme qui était autour de nous. Et tout ce qui n'était pas utile, ce qu'on abandonnait, c'était le foresta. Et donc nous, on est resté, je pense, dans cette habitude, le foresta, c'est tout ce qui ne nous est pas utile, entre guillemets, dans la démarche intellectuelle. Alors que quand on parle des sujets à l'intérieur de la forêt, on est sur sylviculture, sylviculteur. Donc on n'est pas du tout dans cette... on a peut-être perdu ce contact-là à un moment donné. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais je pense qu'il y a une rupture à un moment donné.
Alors Jacques non plus n'est pas philosophe, hein, mais... Et pour terminer, Jacques, je voulais juste vous poser une question sur... je vous présentais tout à l'heure avec cette relation plus sensible au vivant. Vous avez fait ce bouquin avec des chercheurs, mais malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment que cette relation plus sensible au vivant et à la forêt progresse dans la conscience des citoyens, de nous tous?
Alors je vais répondre aux deux questions. La première sur la pédagogie, la formation. Je pense que ce qui nous manque, c'est la capacité à intégrer l'imprévisibilité et le changement de la forêt. Parce que c'est vrai que c'est plus commode de l'imaginer tel qu'un élément figé, mais en réalité, évidemment, en plein changement, comme on le vit actuellement, la forêt elle-même ne peut répondre que par des changements. Et c'est ces changements-là qu'il faut être capable d'appréhender. Et ça demande de la formation aussi, pour être capable d'avoir des réseaux d'observation suivis par des agents de terrain qui puissent repérer comment la forêt finalement parvient à infléchir sa course en réponse à ces grands changements. Et la deuxième question, effectivement, une plus de, comment dire, d'attention à peut-être à cette altérité non humaine que représentent les différents éléments de la forêt. Très sincèrement, je pense qu'effectivement on progresse, quoi. Jusque dans des publications scientifiques qui, moi j'en ai un en tête qui est cité dans le livre, où je prends 30 secondes. C'était une étude sur la manière dont les acteurs dans un village d'Afrique, je ne sais plus, soudano-sahélienne, se structurer entre eux. Et pour bien comprendre ces réseaux d'échanges entre des êtres humains, il fallait passer par les arbres. Il fallait passer par les arbres, qui sont des arbres à palabres, qui sont des arbres fruitiers, etc. Donc ça place les arbres comme sujet. Et donc ça, c'est des vrais changements. Alors, quand on voit que ces changements, ils sont déjà passés dans des revues scientifiques, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Qui progresse. Et puis, Franck, alors, question essentielle, on va se tutoyer, tu vas voir cette question essentielle. Donc maintenant que tu as entendu le point de vue scientifique, de chercheurs, de professionnels et tout, toi qui fais parler Sixtine, qu'est-ce qu'elle dirait de ce débat entre professionnels et tout, si elle nous écoutait?
Donc Sixtine, c'est la jeune femme du roman qui parle avec le robinier. Non, et pour répondre à la question sur la sensibilité, oui, clairement, enfin, si on le voit. Alors moi, je travaille sur beaucoup de projets effectivement, de transformation de la ville, et on sent qu'il y a une sensibilité qui est très forte. Alors des fois, qui peut être militante, virulente sur des arbres remarquables, qui est tout à fait légitime, mais même plus largement, effectivement, il y a une attention, il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre, en fait. Je travaille sur les sujets d'adaptation au changement climatique, et ce sujet de l'arbre est venu naturellement parce que c'est une préoccupation qui vient, quoi. Et du coup, Sixtine, effectivement, qui a cette sensibilité, mais qui hésite toujours entre quelque part un peu la radicalité en rejoignant des mouvements militants pour défendre les forêts contre certains projets de construction, etc. Une approche peut-être plus scientifique, etc. Et puis qui, in fine, alors elle n'a pas choisi un métier, si on peut dire, mais elle comprend que le chemin, il est entre les deux. C'est une façon de, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, de gérer. Mais c'est ce que vous expliquez très bien, c'est que la forêt, c'est quelque chose de vivant, avec des choses positives, négatives, avec toute sa complexité. Et on ne peut pas faire abstraction de cette complexité. Il faut s'y confronter et il faut agir avec cette complexité.
Voilà. Et puis, c'est une question comme pour Gilles tout à l'heure. Si on lit ton livre, est-ce vrai que si on lit ton livre et qu'on va en face de Notre-Dame et qu'on parle à Robinier premier, il nous répond?
Alors, je disais qu'il ne répond que à ceux qui l'écoutent.
Merci. Merci à vous trois. L'humanité intérêt à protéger ses forêts. Pas d'avenir à l'humanité sans une forêt et nature. Je vous invite vivement à aller rencontrer les auteurs sur le stand pour en discuter, voir leurs livres. Merci aux équipes du festival de porter ces débats, ce débat, la forêt essentielle. Merci aux équipes techniques pour l'appui technique. Donc merci à vous. Et puis donc, le salon ferme vers 18h, 18h30. Vous avez encore un peu de temps pour échanger. Trois livres que je vous invite vraiment à lire.
Vous avez aimé cet épisode ? Vous aussi essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt !